Bonjour, soyez les bienvenus à l'émission Le quotidien des quotidiens. Hélène Denis avec vous en ce très beau lundi à saveur estivale, 14 mai 2018. Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Vous vous êtes fait faire votre petite coupe d'été?
Oui, oui, c'était ma coupe biannuelle, ma coupe de cheveux biannuelle.
Oui, parce que la dernière fois, là, on avait coupé pas à peu près, puis vous n'avez pas été obligé d'aller chez le coiffeur ou la coiffeuse pendant des semaines et des semaines.
Ouais, je crois que j'étais rendu à 5 mois depuis ma dernière visite chez un spécialiste capillaire.
Vous allez bien?
Je vais fort bien, et vous?
Tant mieux. Ah oui, oui, vraiment. On a eu une belle fin de semaine, hein?
Et...
Vous avez célébré la fête des mamans?
Oui.
Oui, ça a bien été.
C'était fantastique.
Bon, mais je suis bien contente pour vous. Et le homard est arrivé. Si vous aimez le homard, ça rend de bonne humeur bien des gens. Alors, je vous écoute dans vos éphémérides.
14 mai, on commence notre périple en l'an 1097, début du siège de Nicée lors de la première croisade. En 1796, un événement quand même assez marquant, le médecin anglais Edward Jenner vaccine un garçon de 8 ans contre la variole, ce qui marque les débuts de l'immunologie. 1878, la marque Vaseline est déposée pour une gelée thérapeutique de pétrole. 14 mai 1900, les Jeux olympiques s'ouvrent à Paris, et ces Jeux sont quand même... ça vaut la peine d'en parler, car ce sont les premiers où sont admises les femmes. Les, femmes,
oui.
Les femmes sont des êtres humains, les femmes sont maintenant des athlètes.
En quelle année?
1900.
1900, ouais,
donc
ça fait
118 ans. 1940, l'aviation allemande détruit les deux tiers de Rotterdam. 1946, la loi de la citoyenneté canadienne est adoptée pour entrer en vigueur le 1er janvier 1947. Donc à partir de cette date, on est canadien. Et jusqu'à cette date, on essaie en tant que sujet britannique.
Ah bon?
1948, l'État d'Israël est proclamé au terme du mandat anglais sur la Palestine. 1955, l'Union soviétique et 7 autres pays signent le pacte de Varsovie pour contrer l'OTAN. 1973, la fusée Saturn V met en orbite Skylab, la première station habitée américaine. 1977, le 14 mai, le Canadien de Montréal gagne la Coupe Stanley pour une 8e fois en 13 ans, battant Boston en 4 matchs.
C'était le bon temps, on dirait l'autre.
On est nostalgique. Ouais. 1984, Jeanne Sauvé prête serment comme première femme gouverneure générale du Canada. En 2001, par 53%, lors d'un référendum au Nouveau-Brunswick, les Néo-Brunswickois maintiennent la légalité des appareils de vidéo-poker. En 2011, toujours un 14 mai, le directeur général du FMI, Dominic Strauss-Kahn, DSK, accusé d'avoir agressé sexuellement une femme de chambre lors d'un séjour dans un hôtel de New York, est arrêté dans l'avion qui devait l'emmener à Paris. En 2012, le printemps érable, comme disait l'autre, confronté au mouvement de grève des étudiants, la ministre de l'Éducation de l'époque, Lynn Beauchamp, démissionne. Elle est remplacée par Michel Courchesne. En 2015, Bombardier Avions d'affaires a confirmé l'abolition d'environ 1750 emplois, dont un millier à ses installations de Montréal. Et en 2017, c'était donc il y a un an aujourd'hui, Emmanuel Macron faisait son entrée comme 25e président de la République française. 14 000 anniversaire de naissance du physicien allemand Daniel Gabriel Fahrenheit, né en 1696.
Ça me dit quelque chose, ce Fahrenheit?
Je pense que ça a un lien avec la température, ouais. Je ne suis pas trop certain.
Le petit cousin de Celsius.
Exact. 14 mai 1998, j'en parlais plus tôt à l'émission Les Voix de service. Il y a donc 20 ans aujourd'hui, s'éteignait le chanteur américain Frank Sinatra.
Ah oui.
14 mai 1959, décès du clarinettiste et compositeur Sidney Bechet. En 1610, on a le décès du roi Henri IV. À son décès, le roi Louis XIII prend le pouvoir. Et en 1643, donc 33 ans plus tard, jour pour jour, Louis XIII décède. Donc deux rois qui partagent un anniversaire de décès.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien.
Avec grand plaisir.
À la une de la presse, une exclusivité, le testament d'un prêtre pédophile. Il me changeait de paroisse, je récidivais avant de mourir en prison le 3 mai dernier. L'abbé Paul-André Harvey a rédigé des documents dévastateurs pour l'Église que la presse a obtenus. Il y blâme ses supérieurs de ne pas l'avoir mis hors d'état de nuire. Aussi, une autre exclusivité, section Affaires Parc Jean Drapeau, un bail avantageux pour le groupe CH. Encore une exclusivité, la CAQ a trouvé son potentiel ministre des Finances. Elle recrute le banquier Éric Girard. Comment survivre à une semaine sans écran? Galartis, des habitués et quelques surprises avec la photo de Magali Lépine-Blondeau qui a remporté deux trophées, dont celui de personnalité de l'année. L'ancien prêtre pédophile Paul-André Harvé accuse les autorités cléricales du Saguenay d'avoir ignoré ses multiples appels à l'aide et de s'être contenté de le muter dans une autre paroisse chaque fois qu'une plainte d'agression sexuelle leur était apportée, ou rapportée, dis-je bien. C'est ce qui ressort de documents rédigés par l'ex-prêtre avant de mourir le 3 mai. L'homme purgeait une peine de 6 ans de prison après s'être reconnu coupable d'avoir agressé 39 enfants au Saguenay. La presse a obtenu une copie de ces documents en exclusivité. De 1965 à 1985, Paul-André Harvé a été convoqué à 4 reprises par différents corps de police au Saguenay. Chaque fois, il s'en serait tiré avec un simple avertissement. Lorsque les agressions ont commencé en 1965, l'abbé Harvé aurait prévenu son évêque, Mgr Marius Paré, de son comportement auprès des enfants. L'évêque, aujourd'hui mort, lui aurait alors conseillé d'être prudent et de prier davantage. Dès les premières infractions, mon évêque d'alors m'a convoqué à son bureau à la suite d'une plainte reçue. Je lui ai fait part de mes difficultés et je lui ai avoué mon besoin d'aide. Il m'a uniquement conseillé de me comporter avec plus de prudence avec les enfants et de mettre plus de prières dans ma vie. L'abbé Harvé blâme ses supérieurs pour ne pas l'avoir mis hors d'état de nuire. Ce sont plutôt les victimes qui étaient réprimandées lorsqu'elles osaient se plaindre. Un petit peu plus loin. Une cure géographique, point d'interrogation. Entre 1963 et 1987, l'abbé Paul Harvé a été transféré de paroisse à 12 reprises, à l'exception des paroisses Sainte-Cécile de Kénogami et Christ-Roi de Chicoutimi. Le prêtre n'a conservé son poste qu'environ 1 an, parfois moins, avant d'être muté ailleurs. Les avocats des victimes entendent prouver que ces transferts à répétition ordonnés par le diocèse avait pour but de camoufler les abus sexuels de l'abbé Harvé, qui a ainsi pu assouvir ses plus bas instincts sur des dizaines d'enfants au Saguenay. Le diocèse de Chicoutimi dit avoir comparé le taux de mobilité de l'abbé Harvé avec 12 autres prêtres de sa promotion et ne pas avoir constaté de différences significatives. Dans la mise à jour de la presse, plus de 40 Palestiniens ont été tués lundi, aujourd'hui, dans la bande de Gaza par des soldats israéliens près de la frontière où des dizaines de milliers de personnes manifestent contre le transfert à Jérusalem de l'ambassade américaine en Israël, selon le dernier bilan en date. Des violents affrontements entre manifestants palestiniens et soldats israéliens ont fait lundi 41 morts et des centaines de blessés dans la bande de Gaza, où les Palestiniens protestent contre l'inauguration à Jérusalem de l'ambassade américaine en Israël. Cette journée de festivités, côté israélien et américain, est aussi la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de 2014 dans la bande de Gaza. Dix établissements d'enseignement supérieur du Grand Montréal s'allient afin de redorer le blason des universités et lancent aujourd'hui une campagne qui fera valoir leur importante contribution dans le quotidien des Montréalais. Bien qu'elle ait glissé du 1er au 4e rang au classement mondial des 100 meilleures villes universitaires en 2018, publié par la société Quacarelli-Simons, la métropole québécoise figure depuis plusieurs années parmi les meilleurs endroits où il fait bon étudier, selon le palmarès. Première en Amérique du Nord, elle surclasse même les villes états-uniennes de l'Ivy League, comme New York ou Boston. On se bat pour convaincre les gens de l'importance des établissements universitaires, leur rapport à la société en général, Philippe Vautier, porte-parole de la campagne. Afin d'attirer l'attention des citoyens, les 10 établissements offriront à la métropole une œuvre nomade urbaine et éducative. 100 pupitres scolaires peints en rose seront exposés dans la ville et changeront de lieu au fil des jours, révèle Jean-Philippe Vautier. Les gens pourront s'y asseoir et à l'intérieur, il y aura des informations concernant les universités et leur présence dans la ville. On a un millier de preuves tout autour de nous de tout ce que ces gens, les universitaires, peuvent inventer et développer. Et c'est ce qu'on veut montrer, dit M. Vautier. L'aide ponctuelle de 10 millions aux 250 organismes communautaires familles devait prendre fin l'an prochain, mais le gouvernement Couillard a décidé d'annoncer son prolongement pour 3 ans. À moins de 4 mois des élections, le ministre de la Famille, Luc Fortin, doit annoncer aujourd'hui que cette aide sera prolongée jusqu'en 2021. Les 250 organismes toucheront également 3,4 millions sur 5 ans pour couvrir les hausses prévues du salaire minimum. Une autre enveloppe de 5,7 millions est accordée pour financer des activités destinées à venir en aide aux parents immigrants ou démunis. Il n'a pas été possible de savoir hier soir si le conseil d'administration de l'UQTR a décidé ou non de lever le lock-out imposé aux professeurs depuis le 2 mai. Les médias sont invités à un point de presse ce matin à 10h30, au moment où je vous parle, il reste une quinzaine de minutes ou un petit peu plus, en présence du président du conseil d'administration, Robert Ricard, et du recteur Daniel McMahon, qui était de retour de son voyage en Jamaïque hier. L'UQTR n'a émis aucun commentaire. La ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, a écrit hier soir sur Facebook une phrase qui contribue à maintenir le suspense. L'Université du Québec à Trois-Rivières s'expliquera sur la décision qu'elle a prise face à la levée du lock-out. Un militaire de 32 ans a été trouvé sans vie samedi soir dans une résidence de l'arrondissement de Saint-Hubert à Longueuil. Un autre individu, âgé de 26 ans, également membre des Forces armées canadiennes, est dans un état critique. Il pourrait s'agir de surdose. Les enquêteurs du service de police de l'agglomération de Longueuil privilégient comme principale hypothèse à ce stade-ci la consommation de drogue et de stupéfiants, a indiqué le porte-parole du corps policier Ghislain Vallière. Les deux hommes qui se connaissaient se trouvaient dans des chambres adjacentes dans un domicile de la rue de la Sabane. La frange radicale des indépendantistes a donné hier son feu vert à l'élection à la présidence de la Catalogne du candidat séparatiste Quim Torra. 4 députés au Parlement régional s'abstiendraient lors du second vote d'investiture aujourd'hui, permettant à M. Torra, désigné par l'ex-président Carles Puigdemont, d'être élu à la majorité simple de 66 députés régionaux contre 65. Une fois élu, M. Torra pourra former son gouvernement, ce qui entraînera automatiquement la levée de la tutelle imposée par Madrid sur cette région. Dans son discours d'investiture samedi, il a promis de travailler sans relâche pour l'indépendance de la Catalogne et de faciliter au plus tôt le retour au pouvoir de Carles Puigdemont, qui est, selon lui, le président légitime. Wolves don't live by the rules. Don't live by the rules. Wolves don't live by the rules. Wolves don't live by the rules.
to stay alive. No one can change it. Mother Nature knows the reason why. Oh, wolves don't live by the rules. Oh, wolves don't live by the rules.
Récent extrait de la chanteuse Elisapi qu'on vient d'entendre en duo avec le chanteur Joe Grass. La pièce s'intitule Wolves Don't Live by the Rules de son nouvel album The Ballad of the Runaway Girl.
À la une du Devoir d'aujourd'hui, lundi 14 mai, une photo qui en dit long. Un Israélien confronte une Palestinienne devant la porte de Damas à Jérusalem, alors que le premier célébrait le 51e anniversaire de la prise de Jérusalem-Est dimanche. La deuxième manifestait contre le transfert de l'ambassade américaine dans la ville qui aura lieu lundi. Transfert d'ambassade sous haute tension, des affrontements sont redoutés alors que les États-Unis déménagent leur pénate à Jérusalem. Centrale de Bécancour, lumière sur l'entente entre Hydro-Québec et TransCanada. La société d'État versera 120 millions de dollars par an à la pétrolière jusqu'en 2026. Festival de Cannes, l'absence omniprésente de Jafar Panahi, cinéaste iranien assigné à résidence. Une photo sous laquelle on lit la chaise laissée vacante par Jafar Panahi a retenu l'attention lors de la conférence de presse menée par l'équipe de son film « Trois visages ». C'est Odile Tremblay qui est une correspondante. C'est la journaliste du Devoir qui est à Cannes en ce moment. Face à ses principes, Québec solidaire a tenu un conseil national presque exclusivement à huis clos cette fin de semaine. Le webzine Media Fugees donne la parole aux réfugiés. Et l'importance de financer le transport collectif en région. La Coalition Avenir Québec a annoncé 7 nouvelles candidatures en vue des prochaines élections sur l'île de Montréal, où le parti ne détient actuellement aucun député. Le chef de la CAQ, François Legault, a dévoilé samedi matin les noms de ceux qui porteront les couleurs caquistes dans plusieurs secteurs de la métropole. On retrouve parmi les candidats Julie Séhid, Bourassa Sauvé, Simon Langelier, Laurier Dorion, Vicky Michaud, Marguerite Bourgeois et Marc Etu Marquette. Sonia Cormier, Janie Gaspard et Michel Le Morin tenteront quant à eux de se faire élire respectivement dans les circonscriptions de Rosemont-Viau et Westmount-Saint-Louis. M. Legault dit être inspiré par la diversité des intérêts parmi ses candidats. Les nouveaux traversiers de Tadoussac seront-ils plus bruyants pour les Bélugas? Ils ont coûté beaucoup plus cher que prévu et seront plus imposants que les navires actuels, mais on ne sait pas si les nouveaux traversiers du lien maritime entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac auront des impacts plus importants sur l'habitat essentiel des Bélugas. Cet enjeu est pourtant crucial, selon un spécialiste de l'espèce, puisque ces traversiers constituent la principale source de pollution sonore à l'embouchure du Saguenay. Les deux nouveaux traversiers sont toujours en construction au chantier Davy à Lévis. Ces navires commandés par la Société des traversiers du Québec pour un coût initial de 125 millions de dollars devraient plutôt coûter près de 325 millions. Plus imposants que les traversiers actuels, ils doivent permettre d'augmenter la capacité de transport à 110 véhicules par navire contre 75 actuellement. Il s'agit d'une hausse de 47 %. Pour connaître le bruit généré par les nouveaux traversiers à l'embouchure du Saguenay, il faudra réaliser de nouvelles études. Une fois que ceux-ci seront en place, a répondu Valentina Galazza-Parc, gestionnaire en relations externes, unité de gestion du Saguenay-Saint-Laurent à Parc Canada. La société d'État qui a piloté le dossier du renouvellement des traversiers s'est voulue rassurante. La pollution sonore et la préservation de l'habitat naturel des mammifères marins présents dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, sont des éléments qui ont été considérés et qui ont motivé plusieurs choix technologiques de la Société des traversiers du Québec, a fait valoir la conseillère en communication Vicky Boivin. Robert Michaud estime néanmoins qu'il sera essentiel d'évaluer le niveau de pollution sonore généré par les nouveaux traversiers. C'est une information qui sera très importante à connaître. De tous les habitats fréquentés par le Béluga, l'embouchure du Saguenay est de loin le plus bruyant. Petite précision, Robert Michaud, est le président du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Québec solidaire face à ses principes. Québec solidaire, QS, a conclu dimanche un conseil national tenu presque exclusivement à huis clos et au cours duquel il s'est efforcé de présenter des propositions concrètes, à commencer par la promesse de réduire de moitié les tarifs de transport en commun partout au Québec. Le parti a évalué les coûts de cette promesse à 427,8 millions de dollars, en divisant par deux le total des revenus, 855,6 millions, des neuf principales sociétés de transport du Québec. Et comment entend-il la financer? Notre cadre financier n'est pas encore annoncé, s'est contenté de répondre le co-porte-parole solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, en précisant que QS n'a pas l'intention d'augmenter la taxe sur le carburant ni les impôts des particuliers. Dans les échanges qu'il a eus avec les médias, le jeune élu a insisté sur l'importance de mettre en avant des propositions concrètes, en plus de souligner le caractère raisonnable et réaliste de la volonté du parti de réduire les coûts du transport en commun, dans l'espoir de les réduire à zéro d'ici 10 ans. Le niveau de l'eau commence à diminuer au Nouveau-Brunswick, ce qui marque le début de la fin d'inondations historiques dans la province. Le porte-parole de l'Organisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick, Robert Duguay, a affirmé que certaines régions avaient vu le niveau de l'eau baisser en deçà du seuil d'inondation. Ce devrait être le cas dans les autres secteurs d'ici mardi, a-t-il ajouté. Le niveau dans la région de Jemseg devrait cependant demeurer au-dessus du seuil d'inondation pendant toute la semaine, et 47 routes demeurent fermées dans la province alors que les autorités poursuivent leurs inspections. Jusqu'à maintenant, 1 688 personnes réparties dans 738 résidences se sont inscrites auprès de la Croix-Rouge après avoir évacué leur domicile. Jardin d'Hometard, Montréal veut faire un parc du stationnement voisin. Faute de pouvoir sauver le Jardin d'Hometard, vendu il y a quelques mois à un promoteur immobilier, la mairesse Valérie Plante envisage de transformer en parc le stationnement voisin. Ce terrain qui appartient à la ville est justement celui que convoitait le musée McCord pour se relocaliser. Les arbres du Jardin d'Hometard, situés à l'angle des rues de Blury et Président Kennedy, risquent de disparaître à plus ou moins brève échéance. D'Hometard avait acquis ce terrain de la ville en 2000 et l'avait converti en espace vert accessible au public 2 ans plus tard. La papetière vient de le vendre au coût de 14 millions au groupe Canva, qui envisage d'y construire un édifice d'une 30aine d'étages comprenant un hôtel et des appartements. Or, c'est le terrain que convoitait le musée McCord. En ce qui concerne le projet de relocalisation du musée McCord, la mairesse est ouverte à étudier différents scénarios, a précisé son cabinet. La perte du Jardin d'Hometard n'est pas le scénario espéré, mais la création d'un parc dans un stationnement est une option intéressante, estime Coralie Denis, directrice générale du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Et le premier ministre Justin Trudeau a annoncé dimanche que l'élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi-le-Fjord aura lieu le 18 juin. Ce scrutin complémentaire vise à remplacer l'ex-député libéral Denis Lemieux, qui a démissionné en novembre dernier pour des raisons personnelles. Lina Boivin, une femme d'affaires de la région, représentera le Parti libéral du Canada. Le Parti conservateur a lui aussi choisi son candidat. Il s'agit de Richard Martel, l'ancien entraîneur des Saguenayens de Chicoutimi de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Au nouveau Parti démocratique, le militant syndical Éric Dubois a déposé son bulletin de candidature. Vous écoutez le quotidien des quotidiens de ce 14 mai. Déjà la mi-mai, ça va trop vite. Hélène Denis qui vous accompagne. L'émission aussi va vite. Dans un petit moment, la revue de presse du Journal de Montréal.
Faut croire.
C'était la pièce 10 piastres de Fred Fortin de son album Ultramar.
Journal de Montréal, Gala Artis, les nouvelles reines de la télé. Alors, ce sont Ludivine Redding et Magali Lépine Blondeau, les plus beaux looks du tapis rouge. Cet ex-cadre déchu a signé une entente secrète. Photo de ce cadre en question, des Renault à 370 000 $ sur le bras de McGill. Il aurait dérobé 370 000 $ à McGill pour ses Renault. Un ancien directeur de l'Université McGill aurait détourné des centaines de milliers de dollars de fonds publics pour rénover sa maison, a pris notre bureau d'enquête. L'établissement s'est discrètement entendu à l'amiable, entre guillemets, avec lui pour récupérer 369 852 $, mais doit maintenant s'adresser à la Cour pour ravoir son argent. L'université a déclenché une enquête interne en 2017 selon des documents judiciaires consultés par notre bureau d'enquête. La vérification de McGill a permis de confirmer que Donald Nicholas, ou Nicholas, qui était responsable de l'achat des produits et services destinés aux résidents des étudiants de McGill, s'était servi de son poste pour acheter des produits destinés à être utilisés pour sa résidence personnelle, mentionne une avocate de l'établissement dans une déclaration à la Cour supérieure. L'université, financée à moitié par Québec et Ottawa, a déposé en preuve des liasses de factures pour différents produits et services en construction, libellés au nom de 13 entreprises de quincaillerie, de construction et de rénovation différentes. En août 2017, McGill et Nicholas se sont entendus pour ne pas ébruiter l'affaire et ont signé un accord secret. En plus de démissionner sur le champ, Nicholas s'engageait à rembourser cette somme à McGill en vendant sa luxueuse maison de Laval dans les 12 mois. Nicholas demande 925 000 pour la maison qu'il a payée 685 000 en 2016. Les parties se mettent d'accord sur le fait que le présent accord devra rester confidentiel et qu'il ne devra pas être divulgué à des tierces parties. McGill acceptait aussi de ne pas engager d'autres procédures contre son ancien cadre. Mais Nicholas, ou Nicholas parce que ça s'écrit Nicklass, n'aurait pas tout dit. En poursuivant ses recherches après la signature de l'accord, McGill dit avoir trouvé pour 162 050 $ d'autres sommes détournées et a exigé en novembre d'être remboursé dans les 10 jours dans une mise en demeure déposée à la Cour supérieure. 6 mois plus tard, l'établissement dit n'avoir reçu aucune réponse de Nicholas, aujourd'hui chargé de projets pour la Société ferroviaire fédérale Via Rail à Toronto, selon sa page LinkedIn. Nombre record de drones au-dessus des prisons. En 4 ans, une hausse inquiétante de 4 500 % a été observée. Le phénomène est en croissance, admet laconiquement le ministère de la Sécurité publique. Sans surprise, les grands établissements de la région métropolitaine de Montréal sont les plus visités par des drones. Les liens avec le crime organisé sont d'ailleurs évoqués par le ministère. La plupart du temps, les autorités carcérales interceptent des téléphones cellulaires, des stupéfiants, du tabac et des accessoires liés à ces objets. Le MSP, le ministère de la Sécurité publique, assure qu'un plan d'action a été mis en place pour contrer le phénomène et que des mises des des analyses plutôt des différentes solutions technologiques existantes pour la détection des drones ont été réalisées. La Lamborghini offerte l'an dernier au pape François et mise en vente à Monaco a été adjugée samedi pour près $1 million, indiquait la maison de vente Sotheby's. Offert l'an dernier au souverain pontife par le constructeur italien, ce modèle Huracan ou Huracan était estimé à plus de $400 000. Le pape avait autographié le bolide en novembre dernier. L'argent de la vente financera un projet de reconstruction d'habitations et de lieux de culte dans la plaine de Ninive, en Irak. Une fuite d'hydrocarbures pollue encore après 8 ans. Les propriétaires d'un pipeline qui a fui à Laval en 2010 n'ont pas fini de nettoyer. Une fuite de 14 000 litres d'hydrocarbures survenue à Laval en 2010 en bordure de la rivière des Prairies contamine toujours l'eau souterraine 8 ans plus tard, a appris le journal. L'eau potable des résidences voisines n'est pas directement affectée puisqu'elles sont raccordées à l'aqueduc municipal et non à des puits artésiens. Cependant, le terrain est contaminé en profondeur, s'inquiète Luc Falardeau, ingénieur environnemental et membre d'Oléoduc Laval en amont, un regroupement de citoyens qui veillent à la sécurité du transport d'hydrocarbures par oléoduc. Le déversement est survenu le 28 février 2010 sur une section de l'oléoduc située à l'angle du boulevard Lévesque-Est et de la Montée-Masson dans l'est de Laval, 8 jours après que la compagnie eut effectué une inspection visuelle du tronçon. Transnord indique effectuer une surveillance mensuelle du site. Au fil des ans, nous avons constaté des tendances positives dans les résultats des tests, assure l'entreprise. Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a affirmé hier que les valeurs conservatrices étaient aussi celles du Québec, hier appelant les bloquistes et les fédéralistes qui n'en peuvent plus de voir Justin Trudeau vivre dans un monde de câlinours à joindre son parti. Les idées des libéraux s'inspirent des idées socialistes de Québec solidaire plutôt que des aspirations des familles de Gatineau à Gaspé, a lancé M. Scheer en clôture du Conseil national de l'aile québécoise du parti à Saint-Hyacinthe. Il a soulevé que des gains étaient possibles dans la belle province, notamment avec la crise qui secoue présentement le Bloc québécois. Les délégués du PCC, donc le Parti conservateur, se sont notamment prononcés pour une déclaration unique d'impôts, plus de pouvoir aux provinces dans le domaine de la culture, la renégociation de l'entente sur les tierces pays sûrs, l'abolition de la TPS sur toutes les plateformes numériques. La députée québécoise néo-démocrate Christine Moore estime que l'ex-militaire avec qui elle a eu une relation a raconté un paquet de mensonges lorsqu'il a mentionné qu'elle avait profité de sa vulnérabilité. Dans une brève entrevue avec l'agence QMI, la députée d'Abitibi-Témiscamingue a précisé hier qu'elle était engagée dans une relation amoureuse avec Glenn Kirkland, un vétéran canadien en Afghanistan. « Je le considérerais comme mon amoureux, on avait des projets d'avenir. » Madame Moore rencontrera les médias ce matin en Abitibi. Et pour terminer, triste nouvelle, 2 pêcheurs ont perdu la vie samedi lorsque leur embarcation a chaviré à 100 mètres de mètres au large de Port Hood sur l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. La GRC a expliqué aux médias locaux que le Ocean Star 2, un navire destiné à la pêche au homard, a chaviré vers 6 heures du matin. Selon le Port Hawkesbury Reporter, les victimes sont le capitaine du bateau, Hugh Watts, et le pêcheur Glenn McDonald. Le fils du capitaine, Elijah, un jeune homme de 18 ans, est toutefois parvenu à regagner la rive à la nage.
c'est tracé d'avance, alors tu gardes ce que tu penses pour toi. Pile ou face, ce sans importance, laisse décider la chance, cesse de demander pourquoi. Alors on peut dessiner des mots d'amour du bout des lèvres, on peut siffler comme un oiseau quand le soleil se lève, on peut laisser ses mots crever dans sa bouche et pleurer comme un bébé quand le soleil se couche. Qu'on est pour ou qu'on est contre et qu'il faudra choisir un camp. Ah non, allons voir s'il nous est permis de garder l'espoir. On peut dire à celle qu'on aime et qu'elle est belle, recommencer tous les matins quand le soleil se lève. On peut viser tous les cœurs et ne jamais faire mouche et rentrer seul quand le soleil se couche.
Une des pièces qui a révélé Karim Ouellet au Québec, la pièce « L'amour ».
Les journaux régionaux dans le droit, Charles-Antoine Gagnon, l'importance du don d'organes. Nicolas Blais fera don d'un de ses reins à son fils Louis-Frédéric, qui est atteint d'une maladie rénale génétique très rare. Pour ce père de famille du secteur Elmer à Gatineau, il s'agit d'un geste naturel afin que son garçon de 12 ans puisse reprendre une vie normale. Si tout va bien, les opérations auront lieu d'ici la fin de l'année à Montréal. S'il n'y a pas de transplantation d'ici un an maximum, Louis-Frédéric devra retourner en dialyse. Ça, c'est 3 fois par semaine, autour de 6 heures par jour, a expliqué M. Blais, précisant qu'un nouveau rein devrait permettre à son fils d'être moins à risque devant les maladies et d'avoir beaucoup plus d'énergie. L'homme de 47 ans participera avec son fils le 3 juin prochain à la 12e édition de la Marche du Rhin de Gatineau, tout comme le couple formé de Francine Lirette et Randall Russell, les coprésidents de l'événement. L'activité qui aura lieu au complexe sportif de la polyvalente Mont-Bleu vise à amasser des fonds pour la Fondation canadienne du Rhin pour la recherche et la sensibilisation aux dons d'organes. M. Russell est né avec une maladie rénale héréditaire appelée rein polykystique. Il a reçu son diagnostic à 29 ans. Il a eu une greffe du rein il y a 8 mois à l'âge de 60 ans, gracieuseté de sa femme. L'opération a eu lieu à l'Hôpital général d'Ottawa. « Malheureusement, mon fils est affecté. Mon père a été atteint, sa mère aussi, et mon arrière-grand-père. Ça suit d'une génération à l'autre. Je dois dire, et c'est encourageant, que chaque génération a pu bénéficier de meilleurs soins et de meilleurs résultats que la précédente, a expliqué M. Russell. M. Russell prend 14 médicaments par jour. Les médicaments anti-rejet lui causent de l'anxiété. Je dois les prendre pour le restant de mes jours. Avec le temps, on diminue les doses et je me sens de mieux en mieux. Les 3 ou 4 premiers mois ont cependant été difficiles. M. Russell est encore aujourd'hui agréablement surpris des résultats de la greffe. Dans le soleil, Jean-Marc Salvet, exclusif, c'est une administratrice publique au profil social, Diane Lavallée, qui devrait succéder à Agnès Maltais pour représenter le Parti québécois dans la circonscription de Taschereau aux prochaines élections, a appris le soleil. Elle est une figure connue dans plusieurs milieux. Présidente de la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec de 1987 à 1993, Mme Lavallée est devenue par la suite gestionnaire dans la haute fonction publique québécoise. Le secret de sa candidature est précieusement gardé depuis quelque temps par une petite poignée de personnes au Parti québécois, dont la députée Agnès Maltais. C'est d'ailleurs elle qui a établi le contact avec Diane Lavallée, selon nos informations. Mme Lavallée devrait confirmer incessamment son intention de se lancer dans la campagne électorale. C'est l'une des plus grosses prises réalisées jusqu'ici par le Parti québécois à l'échelle de tout le Québec en vue du prochain scrutin. La formation de Jean-François Lisée avait besoin d'une candidature comme celle de Diane Lavallée pour tenter de se remettre en selle. La future candidate jouit d'une excellente réputation et compte de nombreuses réalisations à son actif. Elle a aussi dirigé une association d'établissements de santé et de services sociaux et présidé aux destinées du Bureau du curateur public du Québec. Une fille qui court une course empreinte de fierté, c'est dans le Nouvelliste Catherine Bergeron. Le dépassement de soi et la solidarité féminine étaient bien présents à la 5e édition de l'événement Une fille qui court qui avait lieu dimanche hier au parc Pie 12 de Trois-Rivières. Plus de 2000 femmes provenant des 4 coins de la province s'étaient donné rendez-vous pour cet événement sportif. Nous avons des gens qui viennent de très loin. Nous avons des coureuses de la Gaspésie, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Montréal et même d'Ottawa, souligne Nathalie Sansfaçon, qui est créatrice et responsable de l'organisation. Madame Sansfaçon explique que chaque année, les participantes reviennent et incitent les femmes de leur entourage à se joindre à elles. C'est notamment le cas de 2 coureuses de Montréal, Mélanie Dubé et Isabelle Dubois, croisées à l'arrivée. C'est notre 3e course et nous avons incité 3 de nos collègues de travail à relever le défi avec nous, raconte Mme Dubé. Courir entre femmes, qu'est-ce que ça change? Les femmes rencontrées sont unanimes. La principale différence, c'est l'absence de pression tant sur le plan de la performance que de l'apparence. Pour moi, c'est l'absence de pression, le fort sentiment d'appartenance et la solidarité. Je me suis sentie tellement libre que j'ai dépassé mon objectif. J'ai fait le 10 km en 53 minutes, lance fièrement Mathilde Pierre-Louis. Sa collègue de travail, Rachel Lumière, ajoute que c'est un bel événement qui permet de s'amuser et d'avoir du plaisir. J'ai vu des femmes de tous les âges et avec des apparences physiques différentes participer à la course. Pas besoin de se soucier si nous sommes minces ou rondes, car cela n'a pas d'importance. Tout le monde s'encourage, c'est unique, confie-t-elle. Certaines ont même profité de cette course qui avait lieu le jour de la fête des mères pour se lancer un défi mère-fille. La meilleure eau potable en Amérique du Nord, c'est la question que pose et le texte qu'écrit Claude Plante dans la Tribune. Forte de sa meilleure eau potable au Québec, la ville de Sherbrooke tente sa chance à un concours nord-américain. Du 12 au 14 juin, 2 employés du service des infrastructures urbaines se rendront à Las Vegas. Ils représenteront la ville au congrès organisé par l'American Water Works Association, AWWA. C'est à ce moment que se tiendra le concours de la meilleure eau potable en Amérique du Nord, dont le titre officiel est « Best of the Best Taste Test ». L'organisme existe depuis plus de 135 ans et compte environ 50 000 membres. Pratiquement toutes les municipalités produisant de l'eau potable à travers le Canada et les États-Unis sont en lien direct ou indirect avec l'American Water Works Association, AWWA, souligne un communiqué. Cette association organise depuis quelques années un concours visant à couronner la municipalité qui produit la meilleure eau potable en Amérique du Nord. Ayant gagné le concours québécois en octobre dernier, la ville de Sherbrooke s'avère être automatiquement la représentante désignée du Québec. Pour participer à ce concours nord-américain, les villes doivent obligatoirement être représentées sur place. La ville de Sherbrooke tentera alors de succéder à la ville de Greeley, au Colorado, qui avait remporté le titre l'an dernier. Rappelons, la ville de Sherbrooke a reçu le prix de la meilleure eau municipale du Québec à l'occasion du symposium sur la gestion de l'eau qui s'est tenu à Lévis en octobre dernier. L'événement réunissait plus de 350 experts du domaine de l'eau. En tout, 26 municipalités ont été récompensées dans le cadre des programmes d'excellence en eau de Réseau Environnement. La station JM Janson de la ville de Sherbrooke avait aussi remporté les grands honneurs du prix du jury. Et dans le quotidien, Ding Dong dominical joué dans la région. Aborder les délicats sujets du sexe et de la religion, la tâche peut sembler ardue de prime abord. Ce sont pourtant les thèmes qu'ont choisi le chicoutimien Bruno Lacroix et son acolyte F.X. Thor pour leur pièce de théâtre humoristique intitulée Ding Dong dominical. C'est dans le quotidien sous la plume de Megan Dionne. Leur œuvre sera jouée par la troupe du Vieux Couvent de Saint-Prime du 16 au 26 mai, du mercredi au samedi. Elle s'adresse à un public de 13 ans et plus. C'est parce que c'est grivois et inspiré du vaudeville. Ça parle de sexe, mais ce sont des sous-entendus. Les gens aiment ça quand ça parle de sexe, mais ce n'est pas vulgaire ni cru, précise Bruno Lacroix. Le Saguenéen s'attend à ce que sa pièce soit jouée un peu partout en 2019, puisque déjà quelques troupes de théâtre françaises lui ont demandé son texte. Pour écrire Ding Dong dominical, il s'est inspiré du cinéma français de son enfance pour l'écriture, de Louis de Funès et de Pierre Richard notamment, mais aussi américains et québécois. Laurel et Hardy, Olivier Guimond et Lapoune ont tous contribué à enrichir le processus de création de celui qui a quitté Chicoutimi il y a 15 ans. Ce sera la première fois qu'une de mes comédies sera jouée au Saguenay-Lac-Saint-Jean et ça me fait chaud au cœur, même si nul n'est prophète dans son pays, souligne M. Lacroix. L'histoire se déroule dans les années 1960 dans un presbytère, alors que le maire est sur le point de se marier avec la crémière. La pièce est parsemée d'intrigues et de rebondissements, assure l'auteur. Le Vieux Couvent de Saint-Prime sera le premier à la présenter. Les gens qui connaissent mes pièces m'ont dit que c'était la plus drôle. Les comédiens ont eu beaucoup de plaisir à la jouer ensemble, fait valoir Bruno Lacroix. Ce dernier habite maintenant la région de Chaudière-Appalaches, où il a fondé le Théâtre Bleu, en référence à ses origines de Bleuet. Ses textes sont repris par différentes troupes de théâtre en Europe et aux États-Unis. Sa pièce « Une nuit blanche » en traversin est jouée pendant 6 mois à Bordeaux, soit de mars à août de cette année. Merci d'écouter le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Et puis à venir à l'émission, il y aura entre autres les actualités culturelles où je vous parlerai notamment de la soirée d'hier, la soirée artiste. On en parle dans les journaux partout ce matin. Alors, je vous lirai entre autres l'article de Manon Dumais dans Le Devoir. Restez avec nous. Money night.
Musique qui nous donne envie de rouler en décapotable par ce beau soleil et de s'amuser les cheveux au vent. C'était la formation australienne de Cat Empire avec la pièce The Car Song.
Gala Artistes 2018, Magali Lépine-Blondeau et Charles Lafortune s'illustrent. L'actrice de District 31 et l'animateur de La Voix sont élus personnalités de l'année. Alors, je vais vous lire l'article de Manon Dumais qui fait un retour sur cette soirée d'hier, dimanche soir, en direct du Théâtre Denise Pelletier sur les ondes de TVA. S'est déroulée la 33e édition d'Artistes. Marie-Pierre Morin, première femme à tenir la barre de ce gala en 16 ans, et Jean-Philippe Dion, qui en connaît bien sur le tapis rouge et les coulisses, ont animé en toute convivialité cette célébration glamour couronnant les vedettes préférées du public. Alors, il manquait le sûr, d'où mon hésitation. Placé sous le signe de l'amour, le gala Artis, le premier de l'ère post-Salvay, ce qui a changé la donne dans quelques catégories, devait faire la part belle aux femmes. Sont apparues Martine Sinclair et Marie-Ève Janvier pour chanter « Il y a de l'amour dans l'air » et « Je t'aime », tandis que les artistes s'envoyaient les uns aux autres du « love », entre guillemets. Est alors entré en scène Patrice Michaud pour interpréter son succès « Mécanique générale ». S'est en suivi une distribution de barbe à papa rose et une pléthore d'artistes dont Alex Nevsky et Yama pour chanter l'amour dans les deux langues. Même les animateurs ont poussé la note en compagnie de Gilles Girard des Classelles. Or, même si le thème de la soirée était celui de l'égalité, et qu'Ariane Moffat y est allée d'une interprétation sentie de « What About Us » de Pink lors de la présentation des finalistes de la catégorie « Personnalité féminine » dans les 8 catégories non genrées, totalisant la moitié des catégories, une seule femme a été couronnée, soit Sarah Jeanne Labrosse pour « Le Chalet », choisie pour la 3e année de suite meilleure artiste d'émission jeunesse. Élue personnalité féminine et masculine de l'année, Magali Lépine-Blondeau et Charles Lafortune ont aussi respectivement remporté l'artiste du meilleur rôle féminin dans une série dramatique annuelle et l'artiste du meilleur animateur d'émission de variété ou de divertissement. Pas préparée et un peu chaude en fin de gala, l'actrice a remercié sa mère qui lui a fait connaître son premier coup de foudre en l'amenant au théâtre de Chaillot à Paris. Il s'agissait des deux premiers prix artistes pour l'interprète de l'inoubliable sergente détective Nadine Legrand, tandis que l'animateur en avait déjà 8 à son actif, dont 3 artistes de la personnalité masculine de l'année. Faisant référence à une jeune femme trisomique ayant perdu son emploi, Charles Lafortune a profité de l'occasion pour saluer les entreprises qui embauchent les gens différents. N'ayez pas peur de la différence. Détenteur de 2 prix Métrostar 2002-2003 et fort de 3 mises en nomination, l'acteur Gildor Roy s'est également imposé à 2 reprises dans le cœur du public en repartant avec les trophées du meilleur rôle masculin dans une comédie, Lâcher prise, et du meilleur rôle masculin dans une série dramatique annuelle, District 31. « Ça n'a aucun sens », a-t-il dit. « Bravo aux autres acteurs, c'est impressionnant de vous battre. » Comme dirait Marc Messier, « Merci de penser aux vieux. » En tête des nominations avec la série quotidienne de Luc Dionne, la percutante série Fugueuse a vu son actrice étoile, Ludivine Redding, remporter l'artiste du meilleur rôle féminin dans une série dramatique saisonnière. Tremblante d'émotion, elle a dédié son prix à toutes les Fanny, filles et garçons. Et a demandé que l'on cesse de juger et de traiter les prostituées comme des criminels. Il s'agissait d'une première nomination aux artistes pour la jeune comédienne. Outre l'interprète de Fanny, Pierre-Luc Fonck, Fabien Cloutier et Sophie Desmarais étaient les rares artistes à s'y retrouver pour la première fois en nomination. L'excellente série L'Imposteur a permis à Marc-André Grondin de remporter une seconde fois le prix du meilleur rôle masculin dans une série dramatique saisonnière. Fête des mères oblige, l'interprète de Youri Philippe ému à saluer sa mère qui a fait beaucoup de sacrifices pour qu'il se rende où il est maintenant et qui a passé une année difficile. Rappelons que le père de l'acteur, l'animateur Denis Grondin, est mort l'an dernier. D'autres artistes ont aussi salué leur mère, dont Gino Chouinard, qui a promis de lui remettre sa statuette, et Sarah-Jeanne Labrosse, qui s'est adressée à la sienne comme elle s'adresse aux jeunes. « Hey, aie confiance en toi !» Par ailleurs, les choristes de Céline Dion ont interprété « Toutes les mamas », chanson popularisée par la regrettée Morane. Si la gloire peut être éphémère, certaines personnalités parviennent à s'installer pour longtemps dans le cœur du public. Ainsi, malgré les mauvaises critiques dans tout cas, qui revient l'an prochain, la bien-aimée Guylaine Tremblay a réussi à mettre le grappin sur le prix du meilleur rôle féminin dans une comédie. Ce prix s'ajoute à la collection de 21 Métrostar artistes de l'actrice, sacrée 10 fois personnalité de l'année. « Je ne m'y attendais pas », a-t-elle avoué, touchée avant de saluer sa mère, la femme la plus drôle que je connais. Pour la 18e fois, Pierre Bruneau, TVA Nouvelles, a récolté le prix du meilleur animateur de bulletin de nouvelles. « Merci pour tant d'années d'amour, de confiance et de fidélité. » Sans surprise, Gino Chouinard, salut bonjour, a mis la main sur son 11e prix artiste du meilleur animateur d'émission de service, le premier trempé dans le chocolat. Guy Lepage, tout le monde en parle, n'est pas en reste puisqu'il a remporté son 8e trophée dans la catégorie meilleur animateur de magazine culturel et talk show. L'animateur couronné 2 fois personnalité de l'année possède au total 12 Métrostar artistes. Déjà, d'être en nomination, c'est un privilège. De gagner, c'est un petit gâteau de plus. Gildor, lui, il a eu la crème fouettée, a dit ce fier natif de Hochelaga-Maisonneuve. Pour une 7e année de suite, Dave Morissette, ou Morissette plutôt, qui anime Dave Morissette en direct et destination Coupe Stanley, est reparti avec l'artiste du meilleur animateur d'émissions de sport. Animateur des deux précédentes éditions de la soirée artiste, détenteur de 4 prix artiste, Guy Jodoin s'est distingué en récoltant le trophée du meilleur animateur d'émissions de jeu. L'animateur a profité de l'occasion pour annoncer la 8e saison de ce jeu 100% québécois. L'ayant remporté en 2011 et 2012, Charles Tisser, Découverte, s'est vu remettre le prix du meilleur animateur d'émission d'affaires publiques. À défaut de réellement innover, le gala artiste s'est démarqué une fois de plus par la fidélité de son public. Visiblement soulagé du bon déroulement de cette soirée sans scandale ni grand malaise, à part le segment Tam Tam Cam, Marie-Pierre Morin et Jean-Philippe Dion ont conclu la soirée en s'écriant « On s'est donné de l'amour et on était consentants ». Dans la presse critique du disque Sainte Victoire de Clara Luciani, nouvelle variation sur un même thème, thème écrit comme le verbe aimer. Directement ou indirectement, Clara Luciani a été associée à Nouvelle Vague, Raphaël, Biolay, La Femme, Hologramme, Necfeu, avant quoi elle avait grandi dans un environnement familial très propice à la musique. Puisqu'elle écrit des chansons depuis l'âge de 11 ans, elle peaufine ses identités chansonnières, vocales et musicales. À l'écoute de cet album solo, on sent ici son long chemin, ce long chemin parcouru par cette femme dont les thèmes relatifs à la chose amoureuse et le présent au féminin dominent l'écriture, écrit Alain Brunet. Sombre, gris, lumineux ou clairs-obscurs, les épisodes de l'amour ici mis en strophe demeurent universels. Luciani assume pleinement ses influences venues d'hier ou d'avant-hier. Ses musiques sont à la fois tributaires de la chanson française, de la culture indie, du rock ou de la synth pop. La réalisation et les arrangements de cet opus ont été confiés à Ambroise Willum, Benjamin Lebeau et Yuxek. Ses habillages sonores confèrent à la chanteuse une personnalité authentique. Musique et écriture sont ici assez substantielles, fines et élégantes pour être admises dans l'aréopage des nouvelles forces de la francophonie pop. On y va avec un extrait de Sainte Victoire, Clara Luciani.
Don't
Hélène nous le disait plus tôt, c'est un extrait de l'album Sainte Victoire, la chanteuse Clara Luciani et On ne meurt pas d'amour.
Libre, nouvelle de dernière heure, c'est dans la presse plus, le chanteur Locke Merville devrait plaider coupable ce matin à une accusation d'exploitation sexuelle. Son procès devait s'amorcer lundi pour une dizaine de jours, mais la procureure de la Couronne, maître Anne Gauvin, a annoncé à la Cour que le procès n'aurait finalement pas lieu en raison du plaidoyer de culpabilité de l'accusé. Locke Merville et une autre femme devraient ensuite témoigner pendant les observations sur la peine à imposer lundi matin. L'homme de 50 ans portait un sac à dos à son arrivée au palais de justice de Montréal. Il est défendu par maître Philippe Larochelle. Le riz et le blé à l'origine des traits de caractère. La culture du riz implique traditionnellement plus de collaboration entre les fermiers que la culture du blé à cause de l'ampleur de l'irrigation, dis-je bien, nécessaire pour le riz. Des chercheurs chinois et américains viennent de prouver que les traits de caractère liés au riz et au blé, la collaboration et l'individualisme se transmettent sur plusieurs générations dans les villes modernes. C'est Mathieu Perrault qui signe le texte. Seul dans un café. Les chercheurs ont examiné 9000 clients de 256 cafés dans 6 grandes villes chinoises, dont Pékin, Shanghai et Hong Kong. Dans les deux villes correspondant à la zone traditionnelle de culture du blé en Chine, dans le nord du pays, les clients avaient de 10 à 30 plus tendance à être attablés seuls plutôt qu'en groupe. Nous avons choisi les cafés parce que c'est un lieu fréquenté par la classe moyenne supérieure en Chine, expliquait à la fin avril, en conférence de presse, Thomas Talem, de l'Université de Chicago, auteur principal de l'étude publiée dans la revue Science Advances. A priori, fréquenter un café n'a rien à voir avec l'agriculture. Ça veut dire que si des traits de caractère plus individualistes ou communautaires s'y retrouvent, c'est une bonne preuve de la transmission intergénérationnelle des particularités culturelles agraires. Les chercheurs ont vérifié si les participants involontaires à l'étude étaient nés dans la même région, ce qui s'est avéré dans 90 % des cas. L'épreuve de la chaise. L'autre expérience a été de placer une chaise de manière à entraver le passage dans une douzaine de cafés des 6 villes étudiées. Les cultures de type communautaire encouragent l'adaptation aux contraintes, dit M. Talem. Nous avons observé que la proportion de gens qui déplacent la chaise pour avoir plus de place pour passer est 2 fois plus grande dans les régions individualistes où se cultive le blé par rapport aux gens des 4 villes de la culture du riz. Il était possible de passer sans déplacer la chaise, mais il fallait se mettre de côté sur la pointe des pieds. L'expérience qui a été faite seulement dans des cafés Starbucks par souci d'uniformité a donné lieu à des moments cocasses. Dans un des cafés à Pékin, il y avait un employé zélé qui passait le balai toutes les 20 minutes. Chaque fois, il poussait la chaise que j'avais mise en travers du passage. À un certain moment, il a commencé à soupçonner que j'étais celui qui mettait sans cesse la chaise sur son chemin. Quelle est l'utilité d'une telle étude? Les traits de caractère plus communautaires ou individualistes ont des impacts en psychologie clinique, dit M. Talem. On sait que dans les cultures plus communautaires, une bonne manière de diminuer son stress est de s'adapter aux contraintes, alors que dans les cultures individualistes, il faut les contrôler. Cela signifie que la culture dominante d'une société a des impacts sur le type de psychothérapie le plus efficace. Employés et autres pays, les chercheurs ont fait plusieurs contre-vérifications pour étayer leur thèse. Les employés des cafés avaient beaucoup plus tendance à déplacer les chaises que les clients, 24 % contre 4 % dit l'économiste de Chicago. Mais ici aussi, il y avait un écart entre les employés des villes de la culture du blé ou du riz. C'est pareil pour les différences entre les hommes et les femmes qui ont moins tendance à déplacer une chaise qui obstrue leur chemin. Les chercheurs ont fait la même expérience aux États-Unis et au Japon. Les Américains déplacent une chaise encombrante dans une proportion à peine supérieure à celle des villes de la culture du blé en Chine, alors qu'au Japon, les résultats sont semblables à ceux des villes de la culture du riz en Chine. Les résultats n'étaient pas différents pour Hong Kong, où la culture du riz n'est plus répandue depuis belle lurette. Les legs agraires persistent dans le monde moderne, dit M. Talem. M. Talem et ses collègues de l'Université normale de Pékin et de l'Université de Virginie veulent maintenant faire les mêmes expériences en Inde. La division entre la culture du blé et du riz en Inde est entre l'Est et l'Ouest, plutôt qu'entre le Nord et le Sud en Chine, dit M. Talem. On va pouvoir vérifier que la température ne joue pas un rôle dans ces traits de caractère. Alors voilà pour l'article signé Mathieu Perrault, le riz et le blé à l'origine des traits de caractère. Auto-vedette Laurent Paquin, la Bentley de son idole. Laurent Paquin est l'un des plus brillants humoristes au Québec. Après 2 années d'absence, il est de retour sur les planches ce printemps pour présenter son 4e one-man show, Déplaire, qu'il enverra en tournée tout l'été aux quatre coins du Québec. Il a aussi animé plusieurs galas au cours des dernières années. Laurent Paquin en a fait du chemin depuis l'époque où il se rendait à sa station de radio de Trois-Rivières au volant de sa Corolla 89. C'est Mathias Brunet qui a interviewé Laurent Paquin sur son univers concernant les voitures. « La voiture, donc, qui a marqué mon enfance. Je me souviens, dit Laurent Paquin, d'une Chrysler Newport 1981 qui était notre première voiture neuve. J'étais bien impressionné. Elle coûtait 8 100 $, ce qui me semblait énorme à l'époque. Cette voiture me paraissait immense de mes yeux d'enfant. Il y avait tellement d'espace que lorsque mes parents nous trouvaient trop tannants, ils pouvaient nous mettre à genoux dans l'auto, comme quand on allait en punition dans le coin. Ma première voiture, une Corolla 1989 que m'avait donnée ma mère. Elle devait avoir 150 000 km au compteur. Ma mère devait me la vendre au départ, puis elle m'a dit « T'as pas une scène, je vais te la donner. » Elle m'a permis de commencer à gagner ma vie et d'être autonome. Je n'avais effectivement pas une scène. Je venais de trouver du travail dans une radio de Trois-Rivières et je devais voyager tous les jours pour m'y rendre. Juste pour ça, c'était une de mes voitures préférées dans mon souvenir. Je l'ai quittée après plus de 325 000 km. J'aurais pu la garder, mais je gagnais bien ma vie et je voulais acheter du neuf. Peut-être que si ma mère avait su comment ma carrière allait décoller, elle m'aurait demandé de la payer plus tard. Ma pire voiture. Après ma Corolla, je n'ai eu que des voitures neuves, alors pas de citron. Mais à 26-27 ans, j'ai loué une petite Fiat lors d'un voyage en Europe en 1999 et c'est là que j'ai appris à conduire manuel dans les rues de Bruxelles. Pas l'idéal, mettons. J'étais stressée comme jamais. Je n'arrêtais pas d'étouffer sur tous les coins de rue. J'ai appris que les Européens étaient vite sur le klaxon. Je me suis finalement rendu compte que je démarrais toujours en troisième vitesse. On a quand même traversé la France au complet en partant de la Belgique jusqu'à Marseille. On dormait dans les auberges de jeunesse, les campings. On a même dormi une fois dans la voiture car il commençait à faire noir et on n'avait rien trouvé pour dormir. Ça n'était pas l'idéal car il s'agissait du modèle le plus compact des Fiat, mais ce sont de bons souvenirs quand même. La voiture de mes rêves, je ne sais pas trop. J'aimerais quelque chose d'avant-gardiste, une voiture complètement électrique ou à l'hydrogène. Ou sinon, une vieille bagnole que je sortirais seulement l'été, genre une vieille Mustang décapotable. Ou mieux encore, la Bentley d'Yvon Deschamps. Yvon avait la Bentley de son idole, Charlie Chaplin. Alors moi, j'achèterais de mon idole, Yvon Deschamps. Oui, belle journée, comme le disait un petit peu plus tôt Jean-Sébastien Laliberté, pour se promener en décapotable, pourquoi pas en Bentley décapotable. Hein? Alors, il faudra appeler Yvon Deschamps pour ça. Merci Jean-Sébastien à la mise en onde et au choix musical. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Ici Hélène Denis. Merci d'avoir été donc présent au rendez-vous de Le Quotidien des quotidiens. Je vous retrouve à l'émission Les Par Actualités. À bientôt.